Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, on vous dit tout de nos traditions de Noël. Bonjour Nadine Crottin.
Bonjour.
Vous êtes historienne des fêtes, mais quelle jolie spécialité, bravo. Alors une première question de curieuse pour vous. En fait, c'est une question de ma petite fille, parce que je lui avais acheté un calendrier de l'Avent, elle a à peine 3 ans, elle me dit « Mais maman, ça sert à quoi et ça vient d'où ?» Ah oui, en effet. Ben, j'étais incapable de lui dire, je savais lui dire à quoi ça servait, à attendre Noël patiemment avec des petits cadeaux chaque jour, mais ça vient d'où, ça je ne pouvais pas, donc je compte sur vous. Pour nous l'expliquer.
Alors déjà, l'Avent, A-V-E-N-T, oui. C'est la période liturgique qui est avant Noël, comme vous avez le carême qui est avant Pâques.
Mais pourquoi ça s'écrit A-V-E-N-T ?
Alors ça vient du latin Adventus, qui veut dire avènement, et c'est l'avènement de Jésus qui va naître la nuit du 25 décembre.
Quand est-ce qu'il a été créé, ce premier calendrier de l'Avent ?
Alors, le premier calendrier de l'Avent remonte à 1908, enfin, qui a été commercialisé, parce que déjà au 19e siècle, les petits Allemands collaient des images. Oui. On leur donnait des images pour attendre Noël. Bon, c'était à partir du 17-18 décembre. C'était évidemment pas 24 images complètes. Mais en tout cas, il y avait eu un Allemand qui s'appelait Gerhard Lang qui avait eu l'idée de les commercialiser, voilà, et il a fait ses calendriers qui étaient au début plutôt religieux, puisque la scène du 24 décembre représentait automatiquement la crèche, évidemment, et puis à chaque fois, ça présentait, enfin les petites images étaient elles-mêmes profanes, mais les calendriers sont devenus depuis les années 70 profanes.
Eh ben, je pourrais expliquer ça à ma fille Bonnie Rose.
Voilà une première question. Merci. Et une première réponse surtout limpide. Je vais vous faire un aveu, je n'ai pas encore été chercher mon sapin de Noël. Pourquoi ? Parce que c'est une galère pas possible. C'est lourd, c'est compliqué à transporter.
Ça prenez met un des bouquet de partout. Fleurs, mettez non, des boules dessus.
Ça m'énerve chaque année et du coup je me demande mais qui a eu cette idée de faire entrer un arbre dans le salon pour Noël ? À tout de suite les curieux.
Vous écoutez RTL.
Petit papa Noël.
RTL.
Quand tu descendras du ciel.
Jingle bell, jingle bell. Jingle bells swing, jingle bells ring.
Noël, Noël.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
Pourquoi Noël, on achète et on décore un sapin ? Pourquoi est-ce qu'on offre des cadeaux ? Pourquoi la bûche est-elle incontournable ? Des questions et des réponses avec l'historienne des fêtes, Nadine Crottin. Alors ce sapin que Thomas n'arrive pas à faire entrer encore dans son salon,
ça ne saurait tarder.
Fait-il son entrée en France, dans nos salons français ?
Alors, la tradition de mettre des verdures à ce moment de l'année, qui est le moment du solstice d'hiver, donc dans l'hémisphère nord, les arbres sont dépouillés de leurs feuilles, la tradition de mettre de la verdure est ancienne. Déjà Tertullien, donc, qui était un apologiste chrétien, qui a vécu au 2e-3e siècle en Afrique du Nord, qui était romanisé à l'époque, se plaignait parce que les chrétiens mettaient des lauriers et des chandelles devant leurs portes et dans leurs entrées, pour les Saturnales, comme les païens le faisaient.
Mais alors pourquoi ? Parce que c'était important de mettre de la verdure dans la maison pour attendre avec impatience le printemps et le renouveau de la nature ?
Non, c'était derrière, c'était plutôt une idée de conjuration, de conjurer cette stérilité ambiante de la nature.
Ah oui, c'est
où on espérait qu'après le solstice, l'année qui allait renaître allait justement être prospère et féconde, etc.
Donc tradition très ancienne,
oui.
On remonte au 2e siècle, c'est ce que vous venez de nous dire. Et à partir de quand ça devient un sapin et ça devient l'arbre le plus populaire et l'arbre qu'on doit mettre dans son salon ?
Alors, le sapin, en fait, est apparu plus tard, évidemment. D'abord dans des maisons publiques, un hôpital, une maison de corporation en Allemagne au 14e et 15e siècle. Et en 1521, à Célestat, les comtes de la ville font état d'argent qui est versé à des gardes forestiers pour surveiller les forêts locales, pour ne pas qu'on coupe les petits arbres des mets, des petits arbres verts, on ne les coupe qu'à partir de la Saint-Thomas, le 21 décembre à ce moment-là.
Donc ça, c'est le signe qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient couper ces arbres. Je crois qu'une reine a popularisé cette tradition du sapin à l'intérieur du salon, c'est ça ?
Oui, alors, c'est-à-dire que c'est une reine qui l'a offert à sa belle-fille, qui était d'origine allemande, Hélène de Mecklenburg, je suis désolée.
On vous fait confiance.
Qui, en 1837, avait offert, c'était la femme de Louis-Philippe, elle, Marie-Amélie, et elle lui avait offert donc ce sapin pour décorer son salon. Et puis, à la même époque, en 1841, il y a eu Albert de Saxe, qui était l'époux de la reine Victoria en Allemagne, en Angleterre, et il était, lui, d'origine allemande, et il a voulu mettre un sapin également... à ce moment-là, pour Noël.
Depuis quand est-ce qu'on décore le sapin ? Aujourd'hui, on aime bien mettre des guirlandes, des jolies boules, elles sont en verre ou alors elles sont en plastique quand on sait qu'elles vont tomber et se casser de toute manière. Moi, c'est ce que je fais, personnellement. Depuis quand on fait ça ?
Alors, on l'a fait assez vite. Une fois que l'arbre est rentré dans les maisons, enfin, il s'est imposé assez tard, hein, au 19e siècle ou au début 20e, même par endroits. À ce moment-là, on a commencé, bien sûr, à le décorer avec des pommes et des noix. Et,
Des pommes rouges.
Ouais. Voilà, tout à fait. C'était des couleurs qui sont d'ailleurs restées les couleurs de Noël, le rouge et le vert.
Ça vient de là, l'association de la couleur du sapin et des pommes rouges.
Probablement, le fait que ces couleurs... ça peut venir du houx aussi, qui a énormément d'importance à Noël. Et ça peut venir aussi de l'habit du Père Noël qui est rouge. Donc on est resté fidèle aux deux couleurs.
Le sapin est décoré, on est d'accord. La crèche est disposée, on va le faire pendant le disque. On prépare le repas de Noël maintenant. Mais au fait, d'où vient ce festin de dinde et de bûche ?
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
À la maison, sur la route, au bureau, dans vos ateliers, dans les champs, où que vous soyez, vos témoignages sont chaque jour le cœur d'On est fait pour s'entendre. L'émission qui vous rassemble, c'est de 15h à 16h en direct sur RTL. Si.
Curiosité est un vilain défaut.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
RTL.
Let it snow, let it snow, let it snow.
The first Noël.
RTL.
Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mes petits souliers.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Noël, c'est dans 4 dodos, mais je ne sais pas si le groupe Trust va vraiment aider à dormir. On verra, les petits-enfants.
Je ne suis pas sûr qu'ils les comptent comme ça, les nuits avant Noël, Bernie, mon voisin. Non.
Mais d'où vient d'ailleurs notre Père Noël ? Pourquoi s'offrir des cadeaux à cette période ? On apprend 1000 choses avec notre invitée, l'historienne des fêtes, Nadine Cretin. Quand le Père Noël, tel qu'on le connaît aujourd'hui, fait son apparition en France, ce bonhomme rouge avec cette grande barbe ?
Alors, on a connu Saint-Nicolas avant de connaître le Père Noël. Et Saint-Nicolas a réellement existé. C'est un évêque d'Asie mineure qui a existé au 3e, 4e siècle.
Qu'est-ce qu'il avait fait cet évêque ? Il était un peu magique, peu incroyable.
Il avait fait beaucoup de miracles de son vivant. Et entre autres, sauver des marins de la tempête, ce qui est son miracle le plus connu en Orient. Et en Occident, son miracle le plus connu est celui d'avoir ressuscité les trois enfants du Saloir.
Il est devenu une sorte de saint patron des enfants.
Exactement, des enfants et des écoliers.
Oui.
Et donc ce Saint-Nicolas, en fait, quand les Américains ont traversé l'Atlantique au XVIIe siècle, les Européens, pour coloniser l'Amérique, à ce moment-là, ils ont emmené leur Saint-Nicolas, à qui ils étaient très reconnaissants, puisqu'ils avaient traversé l'Atlantique sain et sauf. Donc Saint-Nicolas est très populaire en Amérique du Nord. Et là-bas, il s'est transformé. Au XVIIe siècle, progressivement, le Père Noël a perdu... Saint-Nicolas a perdu sa mitre. Il a perdu son père fouettard qui l'accompagnait, qui, lui, était prêt à punir les
C'était
enfants.
C'était son antithèse, c'est ça ?
Si l'on veut. Et en même temps, il a perdu son air hiératique, digne, pour devenir le bon gros bonhomme.
Un peu jovial, quoi.
Mais Saint-Nicolas était habillé de couleur verte, si je ne...
Non, pas forcément.
Ah, d'accord, je croyais.
Non, il était souvent rouge, mais pas tout le temps rouge, ouais. De même que le Père Noël au début. Il n'a pas été toujours dessiné avec un manteau de couleur, un habit, en fait, disons, de couleur rouge.
C'est pas Coca-Cola qui a décidé que le Père Noël allait être en rouge, hein.
Non, mais...
Non, c'est RTL. Voilà.
Non, mais sérieusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient ça.
Oui, alors, il y avait déjà la couleur rouge du vêtement qui était très prisée dans la publicité, déjà dans les années 1880.
Ça accroche l'œil, évidemment.
Et voilà. Et puis, le Père Noël, donc, avait gagné sa grande barbe blanche. Enfin, Coca-Cola a quand même aidé mondialement à fixer cette image, ouais, dans ses campagnes publicitaires des années 1930 ou 1950.
Donc, la marque n'a pas créé ce Père Noël,
non,
en rouge et blanc, mais l'a popularisé.
Mais
voilà,
elle l'a aidé, en tout cas, elle l'a fixé, donc, elle l'a fixé dans l'imaginaire.
Bon, le Père Noël, on sait d'où il vient, mais alors les cadeaux qu'on reçoit, Nadine Cretin, ça vient d'où? Est-ce que déjà, dans l'Antiquité, puisqu'on a parlé de ces Romains qui,
oui,
faisaient des tables fabuleuses pour fêter la nouvelle année,
oui,
est-ce que c'est à cette époque qu'on a commencé à souvent offrir?
Oui, tout à fait. Les Romains de l'Antiquité s'offraient des petits cadeaux au moment des Sigillaires, ce qui était une journée spéciale qui avait lieu pendant les Saturnales. Et puis, ils faisaient aussi des étrennes. Et il y a Ovid dans les Fastes, par exemple, qui,
poète,
déjà,
qui
direct, est, ouais, de notre, du début de notre ère. Et
poète
qui,
latin, pardon.
Qui atteste, poète latin, tout à fait, qui atteste qu'on donnait des figues, du miel, des dattes, donc des cadeaux doux pour justement symboliser une année douce qui allait renaître. Et en fait, ils se plaignaient déjà que par la soif du profit, on préférait recevoir des pièces de monnaie. Donc, vous voyez.
Donc, c'était de la nourriture ou des pièces de monnaie au départ. Des petites figurines aussi, ça a commencé, ça, un peu...
Oui, alors on peut penser effectivement qu'il y avait des petites figurines, entre autres de terre cuite.
Les ancêtres des Playmobil, peut-être, de Lego.
Je dirais plutôt les ancêtres des petites poupées, mais enfin,
ah oui,
bon, c'est comme vous voulez. Et puis après, les jouets, eux, sont apparus beaucoup plus tard.
Merci beaucoup,
c'était absolument passionnant, Nadine Cretin. On attend de vous retrouver au micro de la curiosité. Et si on veut prolonger la lecture de Noël, Lettres de Noël, c'est le livre que vous publiez aux éditions Le Robert. À bientôt.
Vous écoutez RTL.